instantanée en comparaison aux épreuves du tournage, du montage et du visionnage du film. C'est un peu ce dont tu parlais tout à l'heure. Le storyboard étant une première satisfaction de matérialisation, le réalisateur et d'autres créateurs éventuels pourront par ce processus débloquer des angoisses, dites communément de la page blanche, selon un phénomène observé par divers psychologues. La vue des plans dessinés induisant un sentiment de faisabilité, car le plan existe déjà en un sens lorsqu'il est dessiné, entraîne un phénomène d'autosuggestion. Donc le philosophe empiriste David Hume formule ainsi ce principe. Rien dont nous ne puissions nous formuler une idée claire et distincte n'est absurde ni impossible. Sartre nous dit encore que le désir est évocation de présentification incantatoire de l'objet en l'image, il est déjà mine de l'assouvissement. Cette incarnation à vide crée une légitimité à l'objet créé, à l'objet désiré. Cela renvoie à des travaux de psychiatres concernant les visualisations soignantes. Donc c'est un processus qui permet par la visualisation de se créer une réalité subjective et qui permet d'entraîner le corps au vécu par l'imagination. C'est un processus un peu complexe, mais qui est mis en pratique par des sportifs de haut niveau, par exemple, lorsqu'ils se visualisent des compétitions, des épreuves. Donc, en ce sens, l'imagination, dans son sens littéral, possède la faculté d'évoquer des images à l'esprit et donc de préparer l'organisme à l'action. Et donc, ainsi, on peut accomplir des projets plus difficiles et supérer des difficultés. Donc, la création de cette image mentale suppose d'en concevoir un certain nombre de détails. Le sportif de haut niveau, il doit visualiser l'épreuve avec une grande minutie, prévoir toutes les difficultés les unes après les autres. Et de la même façon, le storyboard permet de penser une image filmique en particulier, et non pas en général, et ainsi de songer à un certain nombre de problèmes. Dessiner le film suppose de le définir, et ce bien plus dans la formalisation verbale, plus encore que dans la formalisation verbale ou écrite. Rousseau écrivait en 1755 « Essayez de vous tracer l'image d'un arbre en général, vous n'en viendrez pas à bout. Malgré vous, il faudra le voir petit ou grand, rare ou touffu, clair ou foncé, et s'il dépendait de vous de ne voir que ce qui se trouve en tout arbre, cette image ne ressemblerait plus à un arbre. » Les mots véhiculent des idées générales qui sont purement intellectuelles, alors que l'image, elle, est particulière. Les empiristes ont développé des théories selon lesquelles l'idée n'est qu'une copie affaiblie des images que le contact avec la réalité imprime dans l'esprit des impressions sensibles. David Hume, qui était le fondateur de l'empirisme moderne, admet tout à fait l'existence d'idées abstraites issues d'une déduction de l'esprit, mais ces idées sont individuelles, indéterminées. Elles ne sont pas confrontées à une faisabilité. Pour lui, l'idée d'un objet est inconcevable sans quantité et qualité, donc sans en visualiser la forme. Se former l'idée d'un objet et se former l'idée tout simplement, c'est la même chose. Le fait de se rapporter à un objet n'étant pour l'idée qu'une dénomination intrinsèque dont elle ne porte en elle-même aucune marque et ni aucun caractère. Or, comme il est possible de se former l'idée d'un objet qui soit doué de matière et de qualité, et qui pourtant ne le soit d'aucun degré précis ni de l'une ni de l'autre, il s'ensuit qu'il est également impossible de se former une idée qui ne soit limité et borné en ces deux points. Donc c'est bien que dessiner est un élément qui permet de se poser des questions de la forme, de la réalité matérielle des objets, de ses dimensions et même du regard qui sera porté sur lui. Le dessin d'un plan est le signe d'une image filmique pensée dans une perspective concrète. Il suppose au minimum des choix de cadrage, de valeur de plan, de composition. Un même cadre peut figurer un grand nombre de détails et de choix de mise en scène. Or, les descriptions détaillées des plans peuvent être infiniment longues. Ainsi, le découpage technique peut être paradoxalement complet, mais inefficace par la fastidiosité de sa rédaction et de sa lecture. La visualisation de l'imaginaire par l'image dessinée permet donc d'organiser la pensée. et ce, dans un double objectif d'efficacité et de sécurité. Il y a un aspect préventif dans toutes ces préparations qui, par des réflexions successives, permettent d'évaluer la faisabilité technique d'une scène, de limiter les risques humains, éventuellement animaliers, et matériels, c'est-à-dire financiers, d'engager l'essentiel, prévoir les plans, le matériel, le personnel nécessaire, les techniciens, acteurs, figurants, de construire l'essentiel et de ne tourner que l'essentiel, certains plans pouvant être insignifiants ou inefficaces, et de prévoir un plan de tournage détaillé. Ils permettent, in fine, une plus grande précision dans le calcul du coût du film. Si le contrôle des dépenses sur un tournage que permet le storyboard séduit les producteurs, pour les mêmes raisons, il sait rassurer les investisseurs. Le fait que le storyboard favorise le contrôle des producteurs sur la fabrication du film et qu'il soit la preuve de la préméditation approfondie par le réalisateur sont des gages de sécurité dans la faisabilité et la rentabilité du projet filmique. C'est un outil de travail avant tout. C'est aussi un document qui se révèle très séducteur auprès des investisseurs, qui ne lisent pas forcément le scénario, mais qui regardent à coup sûr le storyboard. Donc là, c'est une petite citation de Franck Calera, qui est réalisateur. Ainsi, le storyboard devient un outil dans les démarches de financement du film. Donc là, j'avais une autre citation d'un production designer, donc c'est un chef déco en quelque sorte, qui nous explique que, bon c'est en anglais mais je vais vous la résumer, il a travaillé sur un film où de temps en temps, à chaque fois qu'ils avaient besoin d'un peu d'argent, ils faisaient un petit storyboard pour envoyer la production et pour leur convaincre que le film avait besoin d'argent. Donc le storyboard est réellement un outil de visualisation pour rassurer également les producteurs. Donc tout cela témoigne de l'efficacité du storyboard par rapport au scénario et du dessin par rapport au texte dans la séduction de ses lecteurs, mais également dans la transmission de l'idée cinématographique. Donc le storyboard est également un outil de communication. En tant qu'objet matériel, il constitue un support de transmission de l'idée et donc de communication. Chaque collaborateur participant à l'aboutissement d'un film a son propre vécu, ses propres références culturelles, son propre talent et surtout sa propre interprétation des éléments de départ, idée, synopsis, scénario, etc. Il est donc nécessaire d'établir une homogénéisation du travail de ces différents membres de l'équipe qui, par l'association de leurs talents et de leurs savoir-faire respectifs, construisent une œuvre unique. Lorsqu'un discours doit être répété, comme un texte, le dessin peut être transmis, reproduit, diffusé. Mais contrairement au texte, il ne se limite pas à une langue. Sa composante texte est souvent limitée à des mots-clés ou des abréviations. Ses numérotations sont universelles et son langage visuel étant semblable à celui du cinéma et de la bande dessinée, on en a déjà parlé, on va encore en parler plus tard, est facilement acquis. De plus, l'image, contrairement au texte, permet une vue d'ensemble du film et la photo de Jurassic Park en est la preuve. Et contrairement donc au texte qui est plus particulier, qui est plus descriptif. Donc le balayage du storyboard peut être bref. Le dessin est plus expressif et plus facilement compréhensible qu'une liste de descriptions. Donc nous pourrions en dire long sur les propriétés communicatives du storyboard et en particulier de sa représentation du mouvement, la continuité cinématographique, son aspect sériel, ses numérotations, les flèches, les mouvements de personnages et de caméra, les vignettes étendues, les répétitions de formes, les onomatopées et autres indications sonores. Tout cela concourt à faire du storyboard l'outil le plus adapté à la représentation de la mise en scène. Nous souhaitons cependant nous limiter ici aux éléments ayant un trait à l'imagination. Corinne Boucher écrivit dans son ouvrage L'univers dessiné des storyboarders, qui font donc la première thèse sur le storyboard qui a été soutenue en 1999 en ethnométhodologie et qui était surtout un recueil de témoignages de storyboarders en publicité. Et donc Corinne a écrit ceci dans sa thèse, « L'outil de communication qu'est le storyboard est doublement mis à contribution dans l'exercice du regard, Le regard peut être simplement technique ou un médium d'accès à l'imagination. Le storyboard peut en effet à la fois éveiller des critiques et inspirer une créativité. Louis Leterrier a évoqué lors de notre entretien la notion de communication qu'offre le storyboard dès les premiers instants suivant sa réalisation. C'est comme une thérapie. Quand on pitch, donc quand on argumente une idée, quelque chose à quelqu'un, on essaye de se l'entendre dire, et si le storyboarder ou la storyboardeuse comprend ce qu'on est en train de lui raconter, c'est le premier public. Ensuite, lorsqu'ils le mettent en image, il y a un véritable dialogue. Moi, j'aime bien ce dialogue. C'est un peu ce dont on parlait ce matin, enfin tout à l'heure. La matérialisation est en effet à la base de la communication, mais également de la mise à distance de l'idée. Cette distance offre une nouvelle perspective, un nouveau regard, un nouveau rapport à l'idée, une prise de conscience et permet enfin l'autocritique. Le storyboard agit comme un miroir, donc on disait tout à l'heure, qui apporte le recul nécessaire à la remise en cause des idées. Donc là, j'ai encore une nouvelle citation de Luc Desportes, storyboarder français, donc dans le top Dream Team des storyboarders avec Maxime Roger et Bruno. C'est en voyant les dessins que le réalisateur se rend compte que ce n'est pas tout à fait cela qu'il pensait, ou au contraire que cela cadre parfaitement avec son désir. La prévisualisation favorise en effet, entre autres, la vérification de l'efficacité visuelle des plans, comme leur bon enchaînement. Donc là, pour parler de l'image comme source d'imagination, je vais commencer par une citation de Hegel. Nous n'avons conscience de nos pensées, nous n'avons des pensées déterminées et réelles, que lorsque nous leur donnons la forme objective, que nous les différencions de notre intériorité et que par la suite, nous les marquons de la forme externe. Si Hegel fait ici référence au son articulé, au mot, ce mécanisme est applicable à toute forme d'enregistrement ou de prise de notes, écrite notamment. En revanche, dans un projet tel que celui d'un film, où l'image tient une part primordiale, la préfiguration, prévisualisation offre un recul particulièrement concret vis-à-vis des idées. D'un point de vue étymologique, l'origine même du terme « idée » provient de « idea », c'est-à-dire « apparence, forme, type, image d'une chose vue et perçue ». Une image présente fait penser à une image absente. Une image occasionnelle peut déterminer une prodigalité d'images aberrantes, une explosion d'images nouvelles. C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, quand un storyboarder dessine un plan, on va pouvoir se dire « ah ben non, en fait ça convient pas » ou « peut-être qu'on pourrait essayer encore ça ». Le storyboard est ainsi l'aboutissement d'idées visuelles, mais surtout la source de nouvelles images. Il est essentiellement ouvert et évasif. Le texte imprimé, lui, persuade par sa supposée suprématie, découlant de l'invention de l'écriture puis de l'imprimerie, et ne conduit pas au scepticisme, donc à la créativité. Le texte est à la fois imprécis et figé, donc comme on a parlé tout à l'heure de la notion de l'arbre, il peut être mal interprété et n'encourage que d'autres mots. Donc là, j'ai une nouvelle citation de Alain, qui était un philosophe, Émile Chartier de son vrai nom. C'est le langage écrit, surtout, qui, en fixant l'erreur, crée un monde d'objets fantastiques sur lesquels s'exercent les commentateurs. Alors que par le dessin ou la peinture, la chose est représentée toute. Les yeux retrouvent leur objet, simplifié certainement toujours, mais immobile en revanche. Ainsi, les pensées du lecteur, si l'on peut ainsi l'appeler, naissent d'un sentiment immédiat, l'esprit ne s'égare point. J'en arrive donc à ma dernière partie, qui de l'importance de la rapidité de lecture du storyboard. Le storyboard est propice à l'imagination car sa lecture est rapide. Ses abréviations, la présence d'images, font que le storyboard peut être parcouru. Cette vitesse de lecture induit un certain détachement vis-à-vis de la forme et permet au lecteur de se concentrer sur le contenu, sur l'essence de l'idée transmise. D'un même coup, l'émergence de nouvelles idées successives n'est pas freinée, entre autres par des processus de traduction texte-image. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà lu un découpage technique, mais ce processus de traduction texte-image est extrêmement lourd et difficile.
Fatigant.
Cette vitesse ne doit pas seulement exister au moment de la lecture, mais elle est également indispensable au moment de la réalisation du storyboard. Donc on en a parlé tout à l'heure. Que ce soit le réalisateur lui-même qui dessine ou un tiers, les dessins doivent exister quasiment aussi rapidement que surgissent les idées. La technique, le dessin en soi, ne doit pas freiner la composition. C'est ainsi que le storyboard est souvent fait de traits rapides, mais toutefois expressifs. Ce dessin, bien qu'il matérialise des choix de réalisation, reste alors souvent sous forme de croquis. Par ses traits rapides, il se définit lui-même comme une suggestion, mais n'impose pas les choix qu'il présente. Lorsque les storyboards, aux traits maintes fois retravaillés, coloriés, ombragés, deviennent trop réalistes, ils sont lus comme un contrat. Ce qui est le cas, par exemple, du storyboard de publicité. Donc du storyboard dit d'agence, et non pas du shooting board. Trop de détails figent l'interprétation. Un trait rapide et inexact, ou non fini, laisse place à l'imagination. Le lecteur fait abstraction de certains traits, il en complète d'autres et ose intervenir sur un dessin qui ne tend pas à la perfection mais à la communication. C'est un document à titre informatif et non consensuel. Il est précis dans l'information qu'il transmet, mais sa forme ne fait que suggérer. Il est un prototype du film qui doit encore être mis à l'épreuve du réel, du tournage ou d'une réalité virtuelle, des techniques d'effets spéciaux, d'animation éventuellement, puis finalement du tournage. L'image du storyboard se situe donc entre l'imaginaire, celui du storyboarder, du réalisateur surtout, parfois du scénariste, du costumier, d'autres collaborateurs, on a vu le chef opérateur éventuellement, et une inspiration nouvelle. Sa première version n'est jamais définitive, il n'est qu'un tremplin, une étape intermédiaire d'un processus de créatif de perfectionnement de l'idée finie.